pas renvoyer le coup à l'autre parce que je fais taper, en fait, bah, c'est une forme de... Enfin, pour moi, ça, c'est une forme de vérité.
Bienvenue dans le Clo-Clo Club, le podcast des conversations intimes et engagées. Il y a quelques semaines, j'ai reçu Shan pour discuter de son rapport à la masculinité. Avec Shan, on ne se connaissait pas, il m'avait été chaudement recommandé par une amie, Clémence, dont vous pouvez écouter l'épisode sur ce podcast. Et cette première rencontre a donné lieu à une conversation des plus surprenantes, allant de réflexion métaphysique à la vie d'entreprise en passant par Timon et Pumba. Ça vous tease les 40 prochaines minutes. Désolée par avance d'ailleurs, le lieu dans lequel on a enregistré n'a pas tout à fait la même qualité de son que d'habitude. J'ai vraiment fait le maximum pour que ce soit audible et j'espère que ça ne vous gênera pas. Si vous voulez soutenir le Clo-Clo Club, vous pouvez vous abonner au podcast, me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, partager un maximum l'épisode autour de vous et me suivre sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club. Sur ce, je vous laisse avec Shan. Bonne écoute. Salut Shan.
Salut Chloé.
Bienvenue dans le Clo-Clo Club. Je suis hyper contente de te recevoir parce qu'en plus de ça, tu es... je crois l'un de mes tout premiers volontaires. Mais non, mais tu t'es manifesté de toi-même pour participer au projet alors qu'on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se rencontre pour cet enregistrement. Donc je suis hyper touchée. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeuristes qui ont une petite idée de qui tu es?
Bah, c'est vrai qu'on pourrait se définir par son métier, ce qu'on aime faire et tout. Moi j'avoue, c'est pas quelque chose auquel j'ai vraiment réfléchi. J'aime plein de trucs comme par exemple tout ce qui va être psychologie, développement personnel. Donc je pense que je pourrais peut-être me définir. Je réfléchis en même temps que je vous parle.
Vous ne voyez pas, mais là, il fronce les sourcils quand il dit le mot voilà. Définir.
C'est ça. Non, mais peut-être comme quelqu'un qui est peut-être un aventurier de la vie. Je pense que ça serait un mot. Ça fait très psychologique, ce que je vais dire, ou très
partir dans les larmes. Ça fait très titre de roman, je suis.
Ouais, je pense que c'est un buzzer, parce que finalement, en discutant avec toi, je me dis que c'est un peu lié à un peu la question bateau, genre quel est le sens de la vie. Et alors là, tu peux partir très loin. Certains diront 42. Voilà.
Très bonne référence.
Ça, et après, peut-être un autre truc aussi sur lequel je pourrais me définir, c'est un peu une sorte de... Pour le coup, c'est ce que j'ai mis sur mon LinkedIn, mais j'aime bien. C'est un peu, pour ceux qui aiment la pâtisserie, la levure dans les gâteaux.
Tu fais gonfler.
Bah en fait, ouais, en soi, ça sert entre guillemets, ça sert un peu à rien, mais si elle y est pas... Le gâteau, le muffin, il va pas se développer et tout. Et l'idée qui est derrière, c'est tout l'aspect travail en équipe en entreprise. Ça peut être travail en équipe en famille, parce que c'est une petite entreprise, et après même dans la société en général, et du coup, un peu ce rapport aux autres. Donc en gros, comment moi je me définis par rapport aux autres, comment j'interagis, ça c'est des trucs qui m'intéressent pas mal.
Donc un aventurier de la vie. Fit une levure sur LinkedIn.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est un bon résumé.
Je pense ça vraiment. Et d'ailleurs, ce genre d'accroche permet d'avoir pas mal de gens qui viennent vous contacter et pas juste des recruteurs bateaux. Parce que du coup, c'est tellement un peu bizarre que ça marche. Donc n'hésitez pas sur vos réseaux à dire vraiment ce que vous aimez au fond. Tous ceux qui valent pas la peine, de toute façon, ne viendront pas, parce qu'ils ne comprendront pas. Et ceux qui, à l'inverse, comprennent, ça matche
mieux. Ils sont intéressés. Ouais. Trop bien. Bah écoute, on va pouvoir commencer. J'ai un petit sachet plein de citations qui parlent d'hommes, au sens large.
Okay. Mmh.
L'idée, c'est que tu pioches une citation au hasard, tu nous la lis, et tu nous dis à quoi ça te fait penser.
Ok. Alors, sois plus violent que le cours du torrent, comme un homme, sois plus puissant que les ouragans. Mulan, Patrick Fury.
Ouais, petit Patrick Fury.
J'avoue, j'avais Mulan en référence. J'avais pas Patrick Fury. À quoi ça me fait penser, comme ça, à chaud?
Est-ce qu'être un homme, c'est forcément être violent, combatif?
Non, pas forcément. Non, comme ça, pas forcément. Après, c'est vrai que dans le dessin animé, j'avais vu. Donc oui, je suis très Disney. Génération 89. En fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est justement des discussions avec pas mal de gens que j'ai eues. Moi, à titre perso, la notion homme-femme, enfin, comment dire, je vais le définir parce que oui, on va avoir des habits différents, des façons de coiffer, ok. Il y a une organisation de la société qui est telle qu'elle est. Mais c'est vrai qu'en tant qu'être, enfin, moi, je vois. Quelquefois, quand je parle de quelque chose, je vais plutôt employer le mot être humain, en fait. Alors, après, il se trouve qu'en français, c'est un être humain, mais qu'importe. La notion. Enfin, masculin, féminin, en termes des mots, pour moi, c'est une évolution de la langue. Enfin, c'est pas quelque chose auquel je fais attention. Je suis plus dans le domaine, en fait, des idées derrière. Donc, l'idée, c'est pas tant qu'il y ait marqué, genre, comme un homme soit plus puissant, et du coup, tout ce que ça va inclure derrière, est-ce que les hommes, ils doivent être plus puissants ou pas. Ce que je vais plus retenir, c'est plutôt l'idée qui est, pour moi, qui est plutôt... Alors oui, il y a le mot violent, je suis d'accord pour le torrent.
C'est puissant,
mais
violent.
Mais c'est plus, voilà, ça va plus être lié à la force, la dynamique, l'énergie du courant, de l'eau, la force de la nature.
Mais justement, c'est marrant que tu notes la nature, et j'y pense quand tu l'as lu, cette citation. J'avais jamais fait attention... Jusqu'à présent, cette citation, pour moi, c'était effectivement une incitation à certains types d'hommes, puisque c'est aux soldats qu'on chante cette chanson-là.
Oui.
Pour les inciter à être des guerriers, et dire, un vrai homme, c'est ça. Sauf que là, en plus de ça, un vrai homme, c'est plus que la nature, plus que les forces de la nature. Oui, t'as aussi un côté de rapport à la nature qui est intéressant.
Oui, tout à fait. Et puis, t'as raison, c'est que dans le contexte, pour un contexte guerrier, moi, je vois plus comme un contexte, je sais pas si c'est métaphysique ou autre, mais plutôt énergétique, en fait. C'est vrai que j'ai une perception du monde, c'est peut-être lié à mes études en physique.
Ouais.
C'est plus l'aspect atomique. Même quand tu meurs, en fait, tu meurs pas vraiment, parce que, en fait, tes énergies,
tu restes
ton atome,
là,
ça reste. Donc, ouais. En fait, ça amène, on va pas partir dessus, mais sur des notions même d'infini, d'infinité à la fois dans l'espace, dans le temps. Ton existence, oui, elle commence à un moment, elle finit, mais en fait, est-ce qu'elle finit vraiment? On sait que, par exemple, même le rapport à la mort là-dessus, enfin, moi, c'est pas du tout un truc qui m'inquiète, parce que je me dis, en fait, de toute façon, déjà, quand toi-même, tu décèdes,
t'es plus là pour le constater, donc
ça, c'est pas très grave. Pour les autres, ça peut être un petit peu triste et gênant, si t'étais apprécié, je l'espérais, mais du coup, ça moi, je sais, ça m'a complètement apaisé, du coup, ce rapport physique, il n'y a plus du tout de problème par rapport à ça. Et du coup, toute cette notion aussi d'énergie.
Tu vois ta perception aux autres et aux individus comme des rapports énergétiques?
Ouais, ouais, clairement. Il y a des gens qu'on rencontre, ça passe pas, le feeling. Le feeling passe pas du tout. D'autres, oui. Le test que je fais, que je trouve bien, c'est quand on va, par exemple, dans des soirées invitées, par exemple, par des amis,
où
on ne connaît pas tous les gens. C'est mieux quand on ne connaît pas tous les gens. Et d'essayer de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, comment le feeling va passer, en fait. Pas forcément dans un but amoureux ou autre, hein.
Juste de
relation. Après, ça évolue comme on veut. Mais c'est hyper intéressant au début, parce que du coup, au tout début, quand on se rend compte, c'est les premiers mots. Après, une fois qu'on la connaît, un truc va s'installer. Mais au tout début, on se rend bien compte de comment un peu l'énergie passe. Je mets ça énergie, il y en a d'autres qui appellent ça autrement. Mais du coup, c'est vrai que j'ai une vision très... Enfin, c'est comme ça que j'observe et j'interprète le monde autour de moi.
Et t'es plutôt à l'aise avec...
comme un savant fou, vous voyez pas mon visage, mais je ne suis pas quand même comme ça.
Au niveau de ton rapport et de tes interactions avec les autres personnes, donc c'est quelque chose d'important, et tu me dis que t'as une vision plutôt non-genrée des individus.
Oui, voilà, plutôt.
Ça s'est construit, ça, ou ça fait longtemps que t'es persuadé ou que t'as conscience de ça?
Non. Conscience, je sais pas trop. C'est plus en discutant, en fait, avec différentes personnes, plutôt des femmes, du coup.
Pourquoi, du coup?
Je ne sais pas. c'est une bonne question, mais je pense que c'est plus avec ces personnes-là que j'ai eu ce type de discussion, en fait. J'ai aussi eu des discussions avec des mecs là-dessus, hein, donc je vais pas présupposer que c'est plus les hommes ou les femmes. En tout cas, dans mon entourage, c'est des femmes. Un des points, petite digression, mais qui a peut-être un lien, c'était notamment sur tout ce qui était genre violence ou harcèlement, par exemple dans les transports ou autre. Je me considère comme quelqu'un de quand même super observateur, et j'ai jamais vu trop ça. Et du coup, toutes mes potes filles me disaient, non mais genre à 100%, toutes ont eu un truc. À 100%.
Ouais, bien sûr.
Donc je me suis dit, bon, quand même, il y a un problème. Donc je veux bien être aveugle, mais à ce point-là, si toutes mes potes me disent, en plus je passe quand même ma vie pas mal dans les transports, je me dis, il y a un moment, soit je vois pas, soit c'est super caché, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Une fois, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui m'a touché dans le métro. Du coup, là, je me suis dit, ah bah tiens, là, je me mets en gros, enfin, ça permet de comprendre tout de suite. Tu peux imaginer tout ce que tu veux quand on te le raconte, mais dès que tu le vis, tu comprends différemment.
Bah, c'est là où tu prends conscience de
ça. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais du coup, par contre, ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit, ah tiens, déclic, tu comprends tout de suite mieux des choses. Donc, ça, c'est l'exemple de l'expérience vaut mieux que toutes les théories. Et du coup, le sujet dont on parlait avant, j'ai un petit peu oublié.
Ça va être que des digressions, t'inquiète pas.
Et ben, c'est parfait.
Donc c'est plutôt avec des femmes que tu as discuté de ces sujets-là. Et ma question initiale, c'était justement, est-ce que c'est une conception, vision de la société des individus que tu as toujours eue et pratiquée ou pas?
Ah oui, ouais. Je pense pas en conscience au début. Mm-hmm. Mais par contre, quand j'en ai pris conscience, je pense en discutant avec ma cousine qui est... pas mal de psychologie. Elle m'a pas mal. Bah, c'est elle qui m'a quand même pas mal expliqué de choses sur toutes les notions de genre, d'expression de genre, enfin tout ce qui va autour de ça. Du coup, là, on va dire, j'en ai pris conscience. Comme en fait, quand je rencontre quelqu'un, que ce soit un homme, je le vois d'abord comme une personnalité en fait. Enfin, le reste, en vrai, je m'en fous. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité de la personne. Donc, je vais. Même les notions de gens qui vont dire oui, qu'il y a des produits, son genre et tout, je comprends. Mais en vrai, je m'en fous. Enfin, je m'en fous.
Tu t'en fous tant que tu payes pas 3 euros plus cher parce que c'est rose, quoi.
Voilà, c'est ça. Et par contre, je m'en fous pas de leur avis. Je comprends tout à fait quel truc. C'est juste que par contre, c'est pas quelque chose qui me touche. Et c'est même pas parce que ça. Alors, oui, ça me touchait, forcément, je réfléchirais peut-être différemment. Mais en fait, c'est juste que. Là où je suis un peu redescendu sur Terre à un moment, c'est que je pense que j'avais une vision qui était peut-être trop utopiste et peut-être trop gentille ou peut-être une vision d'enfant que je ne cherche pas à enlever, mais c'est qu'en fait quand t'es enfant, enfin je pense que tu te poses pas toutes ces questions en fait.
Je pense que c'est plus moi, les adultes autour de toi qui te les inculquent, et après il y a quand même quelques études qui disent, alors peut-être que
je dis des bêtises.
Non, moi à chaque fois c'est la moitié des informations.
Ouais.
Mais il me semble que les constructions de genre et vraiment le distinguo fille-garçon se fait pas mal entre 6 et 8 ans. Truc comme ça.
Et par la société ou...
Et bah, en fait, dans l'éducation, dans les modèles que tu vois, et les enfants, c'est des éponges, donc tu reproduis aussi ce que tu vois. Et c'est à ce moment-là que, là, j'ai été tombée sur ça. Alors, à chaque fois, mes sources, c'est... Je suis tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Ça fait très peu sérieux dit comme ça. Mais c'était assez intéressant, une étude qui avait été faite, en l'occurrence, des enfants de cette tranche d'âge-là, qui devaient dessiner des métiers. On leur dit « dessine ». Alors, c'est en anglais, donc évidemment, le neutre prime, alors qu'en français, c'est plus compliqué. On te dit « dessine un pompier », « dessine un chirurgien », »,« dessine un pilote de ligne ». Et sur tous les enfants qui avaient dessiné, t'avais une majorité écrasante qui avait dessiné des hommes. Même des petites filles avaient dessiné des hommes dans ces figures-là.
Oui, oui.
Tu vois, un pompier, et pas une pompière.
Oui.
On peut dire pompière, oui, normalement.
Oui.
Et il n'y en avait que 3 qui avaient fait, en fait, des femmes. Ce qui était drôle, c'était que l'exercice était organisé par des femmes qui font ces professions-là. Donc, qui après sont venues en costume pour dire, mais. Regarde, moi, ça y est, tu vas en rencontrer pour de vrai. Et du coup, les enfants étaient comme des oufs, en mode super, on rencontre une pompière, pas enfin une femme, mais juste on rencontre une pompière ou un pompier, peu importe, c'est quelqu'un qui bat les flammes, c'est trop bien.
Oui, voilà.
Mais ça casse déjà un premier biais qu'ils avaient intégré d'eux-mêmes, tu vois, de par le dessin de faire que des hommes.
Oui, c'est intéressant ton biais, et notamment même ton point sur la langue. Moi, j'adore les langues et tout. Et c'est vrai que. La notion de neutre et tout, forcément, ça fait partie de l'environnement et donc ça joue. Mais là où je me pose la question, et je pense qu'il y a des gens qui ont fait bien plus d'études que moi là-dessus, enfin en études sociologiques et tout, c'est cette notion que tu as dit, oui, ils étaient enthousiasmés par le fait de voir un ou une pompière.
Tu parles le métier.
Mais en fait, c'est pour moi, en tout cas, moi, ma vision, c'est que voilà, j'ai plutôt été enthousiasmé par le fait de voir une personne qui fait ce métier-là, ou de voir rencontrer une personnalité, etc. Que derrière l'associer. C'est dans ce sens-là que quand je disais je m'en fous, c'est pas je m'en fous, c'est qu'en fait c'est.
Je
ne focalise pas sur ça en fait. Donc c'est vrai que cette notion-là, du coup, ça m'a. Pendant longtemps, ça m'a pas trop touché parce qu'en fait pour moi c'était un non-sujet en fait. C'est-à-dire qu'en fait j'imagine toujours une sorte de société où en fait, bah.
Non, mais on que tu sois un homme, une femme. Quand tu vois des individus c'est tellement sain.
Pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est limite, c'est l'amour au sens large qu'il y a entre deux personnes. C'est pas forcément un amour. Enfin, l'amour vraiment au sens très très large. Avec toutes les formes qu'il peut y avoir. Et c'est plus ça qui m'intéresse dans une perception de la société. Par contre, je sais que d'un point de vue réaliste, oui, il y a des choses concrètes qui montrent que ce n'est pas ce monde-là, que ce monde-là est peut-être dans la tête de gens utopistes ou bisounours. Mais le fait qu'il y en ait qui pensent ça, parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul, heureusement, ça peut amener en tout cas une tranche de la société, ou peut-être juste des bouts très localisés de la société, par exemple dans des entreprises qui vont être très bienveillantes et tout.
Tu agis, toi, en ce sens-là, autour de toi ?
C'est vrai, quand il y a des nouvelles personnes, par exemple. Enfin, le simple fait de les intégrer, de venir les voir et tout. Voilà. Après, tout le monde n'a pas la personnalité d'aller vers les gens inconnus. Hein. Donc, c'est différent. Par contre, dans l'attitude, on peut ne pas être entreprenant vers des gens, mais on peut être à l'écoute. Et quelqu'un qui va être à l'écoute, c'est une forme de donner de l'attention, en fait.
Tu parles beaucoup d'écoute, d'amour, d'interaction avec les autres.
Ouais.
hors micro, on s'était dit que tu étais pas mal intéressée par le développement personnel, et ça se ressent.
Oui.
C'est un domaine auquel tu t'es intéressée, là aussi, encore une fois, depuis un moment ou...
Ouais, ça fait longtemps.
Et qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça?
Exactement, le début, je sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment un lien avec le côté études en physique, hein, on va dire, c'est très les maths et les formules, mais en fait, c'est plus cette notion physique, métaphysique, compréhension du monde, donc compréhension du monde, compréhension de soi. Et du coup, compréhension
de
soi, introspection, et du coup, à force, tu cherches et tu...
Après, tous les étudiants en physique ne tiennent pas ton discours, donc...
Non, après, peut-être tout dépend sur quoi on fait le focus.
Toi, t'as mis une dimension, en tout cas, justement, comme tu le disais, métaphysique à la physique, qui t'a amené à te poser des questions.
C'est ça, avec une notion sur la vie et tout. Même après, il y a une autre approche sur le... Il y a des gens qui peuvent arriver sur cette approche, peut-être via les religions, via des philosophies ou des spiritualités.
La spiritualité de manière générale.
C'est vrai que ça peut être un truc... Ça peut être une voie aussi.
Toi, c'est passé par tes études.
C'est passé par là, mais je pense que c'est un ensemble de plein de choses. Par exemple, mes parents, ils m'ont parlé de plein de spiritualité. Ça a dû forcément m'influencer un petit peu. Après, l'aspect voyage, quand tu voyages dans d'autres cultures, ça te permet de prendre un peu de recul. Par exemple, simplement aller dans des pays, par exemple, anglophones, même de façon, comme tu disais, au niveau de la langue, si on revient sur le neutre et pas neutre, tu vas pas là-bas en te disant ça forcément en conscience, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça va avoir des influences, en fait. Ou d'autres pays qui sont organisés complètement, genre en Asie, c'est organisé complètement différemment, la philosophie, même la construction de la société est différente. Petit lien avec Mulan de la citation, enfin c'est des philosophies différentes, donc c'est intéressant. Par contre, ce que je trouve cool, c'est qu'à force de lire plein de choses, de te renseigner, de voyager, d'expérimenter, il y a un moment, tu sens que les êtres humains, quasiment qu'importe l'époque et qu'importe l'endroit ils sont sur Terre, s'ils ont vécu, il y a quand même des grandes questions qui se posent et qui reviennent en fait tout le temps. Alors après, c'est plutôt le comment qui va changer. C'est un peu comme en entreprise, tu peux utiliser 15 000 outils pour faire un podcast. L'important, c'est de choisir celui qui va te correspondre pour toi. C'est un peu pareil pour pour une organisation de société, pour l'organisation de sa propre vie, pour la façon de percevoir la vie.
T'as l'air quand même très à l'aise avec l'introspection, avec parler de tes émotions, etc. Est-ce que ça, pour toi, ça fait partie un peu de ton chemin, de ta vision de ton chemin, du chemin ou de l'outil que tu empruntes pour répondre à ces grandes questions qui te sont propres?
Oui, si, clairement. Tu parlais parler d'émotions et tout, ça c'est un truc que je vais rebondir dessus.
C'est mon sujet favori avec les mecs, parler des émotions.
Clairement, les émotions, un truc, quand j'étais petit, je pense que je devais pleurer. Et pendant un certain temps, en fait, je me suis rendu compte d'un moment que je n'avais pas pleuré depuis 10 ans. Et je me suis dit, et je me suis dit, tiens, c'est... bizarre. Après, j'étais peut-être pas triste. En vrai, j'étais plutôt heureux, donc j'avais pas trop de raisons de ça. Mais c'est peut-être 8 ans, mais c'est au moins ça. Et en fait, ça m'a permis, à force, en recoupant avec plein de trucs d'introspection, de machin, en discutant avec d'autres gens, après, je me suis réautorisé à pleurer, en fait. Mais c'est même pas que je m'étais bloqué, c'est juste que je sais pas. Et du coup, ça m'a amené à la question de comment en fait tu gères et t'exprimes ces émotions. Et du coup, depuis quelques années, c'est beaucoup mieux. Et en plus, ça touche les gens parce que du coup, tu te rends compte que ça permet aussi d'ouvrir. Quand tu montes un peu ta vulnérabilité, ça peut ouvrir la porte pour l'autre. Ça, je pense que ça donne aussi un peu d'authenticité. Après, l'idée, c'est pas d'aller pleurer devant les gens, c'est même l'aise. Mais en tout cas, de s'autoriser pour soi, tu vois. Voilà. Après, c'est pour cette émotion-là, mais tu peux le faire pour d'autres émotions. Je suis pas du genre à sauter de joie partout. Je vais plutôt le garder pour moi.
Tu les exprimes à ta façon,
par du sourire
en fait.
Autrement. Voilà, il y a des gens, ils vont sauter partout et être trop contents. Moi, je trouve ça très cool, les gens qui font ça. Je le fais pas. Ça, c'est un truc d'introspection qui est cool en développement chemin de soi. C'est juste justement dans cette notion d'énergie, de laisser le flux. On revient un peu au torrent. Le torrent, il va partir un peu partout.
Oui, pas vouloir absolument réfréner tes émotions, mais juste les accepter et après les vivre de la façon dont tu le souhaites, en tout cas.
Oui, et pas trop contrôler aussi. C'est une de mes amies qui m'a parlé de ça, elle m'a dit tu contrôles trop les trucs.
Ah ouais,
c'est un truc de mec ou pas, ça.
T'es d'accord avec elle?
Ah oui, j'étais d'accord avec elle,
T'avais tendance à vouloir garder la main.
Mais même là, je garde quand même un peu la main. Mais moins qu'avant. Mais je pense, après, c'est par rapport à mes expériences. Je suis jamais allé chez le psy, donc je ne sais pas. Peut-être qu'ils m'auraient posé cette question-là. Je sais, on m'a dit l'autre jour, tu n'es jamais allé chez le psy. Non. Mais c'est même pas que j'ai. Enfin, c'est pas une question de honte ou pas, c'est juste que j'ai l'impression de faire mon propre truc moi-même. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui, par contre, est utile.
T'as aussi pas mal mentionné la dimension entreprise, entrepreneuriale, équipe.
Ouais.
C'est un sujet qui t'est cher?
Oui, oui, ben, du coup, comme toi, un de mes objectifs, c'est... Enfin, un de mes objectifs, je sais pas si c'est un objectif ou pas, mais en tout cas...
De tes envies, quoi.
Un objectif, un peu un rêve dans la vie, on va dire.
Mm-hmm.
Ouais, ça serait de créer une entreprise. Alors, à chaque fois, la question, c'est et dans quoi, et dans quoi? Ben, moi, je leur dis, déjà, juste créer une entreprise, c'est cool. Alors oui, il faut un truc concret, parce que là, on va dire, bon, c'est bien les abstractions. L'idée derrière, mais c'est ce qui m'intéresse dans l'entreprise, du coup, c'est ce que tu disais, c'est lié à l'humain. En fait, une entreprise, c'est une petite société.
Mm-hmm.
Alors certes, il y a le code du travail, tu peux pas faire ce que tu veux, mais d'une certaine façon, tu peux recréer un peu, si tu as besoin de créer un peu ton petit pays.
Il y a ces dictatures qui existent, c'est fou, vu comme ça.
Je pense que les entreprises, c'est un peu des dictatures.
Bah, ouais.
Moi, j'ai eu de la chance, j'ai toujours eu des entreprises. Alors, si mes potes écoutent, ils rigolent, parce que oui, je n'ai pas fait beaucoup d'entreprises différentes, mais pourquoi j'aurais pu changer, mais en fait, j'avais pas besoin de changer. Oui, et du coup, c'est vraiment une sorte de petite société. Il y a même des livres ou des gens qui disent c'est un peu le reflet de la société dans laquelle tu vis. En fait, tu le retrouves un peu dans
C'est pour ça que c'est que des hommes chefs d'entreprise en majorité.
Ben, c'est je me pose la question, mais ben,
sur
peut-être.
Les phases
décisionnaires. Ouais, c'est. Ben,
je sais pas,
j'ai pas envie de dire oui ou non, mais enfin. D'une certaine façon,
parce que
peut-être.
Si c'est ça, enfin si c'est ton approche, effectivement, ça en dit long. Enfin, si on regarde les entreprises, t'as quand même, oui, selon les secteurs, plus de femmes que dans d'autres. Bon, ça, l'entrepreneuriat, les femmes qui se lancent, c'est souvent dans des domaines déjà dédiés aux femmes.
Ouais.
Et à la fois, c'est très sexiste, en même temps, elles apportent une solution. Et de l'autre, la majorité, c'est des hommes. Et encore plus quand tu vas dans les métiers scientifiques, dans la tech, l'économie. Truc de science dure et de pouvoir, beaucoup.
Non, mais c'est vrai, oui. T'as entièrement raison sur ce point-là. Non, mais c'est vrai, c'est un constat, on peut pas le...
C'est une discussion,
on
tu
peut
peux,
pas dire.
Vas-y.
Il y a un point, je vais revenir dessus, et sinon, je reviens juste très rapidement sur le truc. Moi, c'est plus, du coup, entreprise au sens relation, justement, d'individu à
individu,
dans le but de créer quelque chose,
qui,
du coup, on parlait vite fait, je sais plus si c'était avant le départ ou pas, mais un peu de sens de la vie. Je lisais un article, c'était quoi, hier matin. On peut tout automatiser et faire une vie de oisive et tout, mais finalement, le fait de créer, donc un peu tout ce qui va être lié à la notion d'art, etc., ça donne un peu un sens à ton existence, en fait. Alors, après, ça peut être créé, il y a des
Totalement.
Gens qui vont créer une famille, il y en a d'autres qui vont créer des entreprises, d'autres qui vont créer des œuvres d'art, enfin, qu'importe
mais
ce que tu
tous
crées,
quelque
en fait,
chose,
tu peux créer des relations, tu peux créer tout ce que tu veux, mais du coup, cette création-là, finalement, c'est ça qui donne un peu un sens à ta vie. Je ne vais pas faire banner les auditeurs, auditrices, mais au moment, notre vie-là, en tout cas, cette vie-là va s'arrêter. Ce bout de vie là, moi je pense qu'il y aura des suites après. Vu qu'on a eu des atomes, finalement.
Tu dis, tes atomes se retrouveront peut-être dans un petit caillou ou dans un gros poisson, quoi.
Petite citation de gens qui ont fait la physique, c'était. C'était qui de Lavoisier, je crois. L'énergie de tout se. Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se
transforme.
Voilà.
Bon, ça, c'est un peu ma fille aussi. J'avoue, j'ai dû être forgé à ça, mais j'aime bien cette idée là. Et je reviens sur le truc d'entreprise. Sur le jour, j'étais allé voir une écrivaine. Je me souviens plus de son nom.
Qu'est-ce qu'elle a écrit, tu sais?
Oui, j'ai au bout de la langue, mais j'ai oublié. Mais ça parlait justement de la place de la femme dans la société, etc. Et il y a vers la fin, il y avait une séance questions-réponses. Et il y a une femme qui pose une question qui était comment expliquer que quand une femme arrive dans un métier, entre guillemets, catégorisé homme, ce métier est dévalorisé. Alors dévalorisé au niveau salaire. Hein. Après, ça a discuté un peu, mais je me suis dit, c'est une question hyper intéressante, en vrai. Parce que ça fait poser plein de questions sur plein de choses.
Même de la discrimination positive à l'embauche, en fait, qui amène ce genre de situation. Et je me dis surtout, effectivement, pourquoi tout de suite ça perdrait de la valeur? Pourquoi est-ce que ce qui est féminin, ce serait raté par rapport à ce qui est masculin? Mais tu citais les Grecs tout à l'heure, et ça date de là, au moins, on le sait, quoi.
C'est ça, ouais.
Bah, de la vision du... Alors là, on digresse un petit peu, pour le coup, mais la vision de la femme comme un homme raté.
Oui.
Parce qu'elle n'a pas les attributs d'un homme. Et en plus, elle saigne, oh là là. Puis elle est un peu historique,
ah oui,
oh là là.
Ouais.
Voilà. Et non, mais on sait que ça remonte au moins là. Après, voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions. On ne peut pas tout résumer. C'est pas tout noir, tout blanc avec un changement du jour au lendemain. Mais c'est vrai que c'est quand même très intégré et imprégné. Et tu le vois aussi dans des propos homophobes. C'est pas des vrais hommes parce qu'ils ressemblent à des femmes. Tu dis, bah, du coup, quel est le problème? Ils devraient te plaire vachement plus, sais pas, tu vois. Donc, il y a un petit peu tout ça qui se mêle.
En fait, ça me fait penser à un... Mais en fait, je pense que j'ai perdu l'idée au moment où j'ai pensé. pourras couper.
Tu te rappelles pas du nom de l'autrice non plus?
Si, c'est, je crois, attends, Perrault, en plus Clément.
Michel Perrault?
Oui, je crois que c'est ça.
Historienne.
Oui, c'est ça. Merci.
Oui, bah
merci.
Oui, Michel Perrault, incroyable.
Je retiens pas trop les noms des. C'est comme les musiques, je retiens pas trop le nom des auteurs en fait. Oui, voilà, c'était. Oui.
J'invite les auditeurs et auditrices à aller écouter les deux épisodes de La Poudre où Lorraine Bastide interview Michel Perrault, parce que Michel Perrault est passionnante.
Ouais, franchement.
Vraiment.
Ouais.
Hyper intéressant. Tu lis beaucoup d'ouvrages de femmes?
Non, alors là, c'était un des premiers. Bah, c'est Clémence, du coup, qui m'a invité.
Clémence, notre amie en commun, qui effectivement t'a recommandé pour le podcast. Enfin, en tout cas, t'en as parlé.
Voilà. Et oui, bah, du coup, elle m'avait proposé de venir avoir. Je ne connaissais pas. Nouvelle expérience. Bah, allons-y.
Dans tes références culturelles, parce qu'on va un petit peu sur ce terrain-là, t'as des figures un petit peu marquantes, comme ça, culturelles, qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore?
Ouais. Alors, pareil, c'est des trucs auxquels je m'intéressais plus à la personnalité en tant que telle qu'autre chose. Du coup, si tu me reposes la question, je vais me dire, ok, donc quel était le genre de la personne?
Mais c'est là où je trouve ça intéressant, et ma question, elle est très intéressée, elle aussi. Tu vois, typiquement, pendant des années, j'ai lu des ouvrages d'hommes, parce que je lisais aussi beaucoup de classiques, je lis beaucoup de science-fiction, donc forcément, il y a plus d'hommes dans ces genres-là, ou en tout cas, qui sont plus connus, et donc plus accessibles quand tu débutes. Et là, ça va faire bien 5-6 ans, si ce n'est plus, que je me suis rendu compte que même en fiction, alors que je choisis des livres pour leur résumer en les prenant au hasard, je me retrouve avec quasiment que des femmes.
Ah, ok.
Et ça m'a vachement surprise. Je me suis dit, mais comment ça se fait?
Alors que c'était pas choisi.
Alors que c'est pas du tout choisi pour le coup. Quand c'est des essais féministes, oui, bien sûr, mais quand c'est de la fiction, pas du tout. Enfin, je prends vraiment un livre qui m'intéresse. Et je me suis rendu compte que j'avais plutôt tendance, bon, c'est aussi parce que j'ai quitté les classiques et que je vais plus faire des autrices contemporaines, mais je vais plutôt faire des femmes. J'étais chez un bouquiniste l'autre jour, je suis tombée sur Colette et j'étais, ok, il y a un truc, enfin, et c'est drôle parce que c'est pas voulu.
C'est la vie qui t'oriente vers ça.
C'est ça, et en même temps c'est parce que c'est aussi des fictions ou des types de représentations, je sais pas, moi en tout cas, qui m'attirent et qui font que j'ai un affect. Et je me rends compte que c'est en train de le faire un petit peu aussi sur le cinéma. Alors, cinéma, j'ai quand même beaucoup de réalisateurs que j'adore et dont je vais voir les films. Ouais. Mais je me suis rendu compte que la part des réalisatrices des films que je vais voir est de plus en plus importante aussi. Alors, c'est aussi parce que dans le marché, je suppose qu'elles ont plus de place. On leur donne un peu plus qu'avant et plus de visibilité. Mais c'est pour ça que je me posais la question, toi, un petit peu dans ton environnement culturel, tu l'identifies comment aujourd'hui? Et est-ce qu'il a évolué ces dernières années?
Bah pareil, j'aime bien tout ce qui va être BD et... un peu plus de la fiction. Je pense que globalement il doit peut-être y avoir plus de mecs parce que j'essaye de me rappeler la couverture et je pense que c'est un nom de mec qui est dessus. Après, alors cinéma, je t'avoue, je ne regarde pas qui a réalisé, enfin, vraiment c'est plus le scénario qui va m'intéresser. Après, dans les chansons
Et sinon, juste dans les figures, même, tu vois, justement autre, de fiction qui t'ont marqué.
Quand tu dis figure de fiction.
Quand je dis figure de fiction,
genre,
c'est.
Balou l'ours.
Ouais, exactement. Tu parlais des Disney tout à l'heure. Bah, parlons-en. Tu vois, les Disney qui t'ont le plus marqué. Enfin, un petit peu tes référentiels à toi.
Je faisais un tri dans des VHS.
Ouais.
Peut-être que tous les auditeurs n'ont pas connu les VHS.
Qu'est-ce que la VHS?
Voilà. C'est pour ça que j'ai.
Les cassettes qu'on mettait dans un magnétoscope. C'est fou.
Non, mais là, c'est le truc rigolo, mais c'est le truc qui me vient à l'esprit. C'est, du coup, oui, avec mon frère, on adorait regarder Timon et Pumba, voilà.
Donc, ouais.
Il se trouve qu'il y avait des cassettes dédiées à eux. Bon, ça doit être deux mecs, du coup, mais bon, on se posait pas trop la question, c'est plus pour l'aspect blague. Et il y avait un petit côté un peu philosophie de la vie, en fait, dans leur. D'ailleurs, même quand tu les revois plus tard en étant adulte, tu te dis, ah ouais, en fait, ça faisait poser des questions.
Alors, du genre, parce que moi, Le Roi Lion, c'est. Alors, je suis très peu Disney, et Le Roi Lion, je crois que j'ai dû le voir une fois dans ma vie, et j'avais pas aimé, et j'étais partie.
Oui, c'est un peu triste en plus.
Bah, quel Disney n'est pas triste avec un parent qui meurt en même temps?
Oui, c'est vrai que c'est un peu.
Hormis Mulan, où elle va sauver son père, qui sinon aurait canné dans les trois premières minutes, comme dans tous les autres. Donc,
non, en vrai, Mulan, c'est très bien, je trouve.
Mulan, il est génial.
Moi, je. Ouais, ça donne peut-être d'assurance de soi, tu te dis derrière, ouais, ça. Vas-y, elle l'a fait. Je peux le faire.
Oui, c'est ça, elle y va et elle a pas peur.
Ouais. Puis pour le coup, c'est pas mal, finalement, là, je revois ton petit papier, c'est pas mal que tu aies choisi Mulan, parce que je sais, dans le dessin animé, donc elle se fait passer pour un homme.
Oui.
Mais en fait, il y a un moment où je pense que tu te poses plus trop la question est-ce que c'est un homme ou une femme, en fait.
Et à la fin, elle se fait rejeter quand il découvre que c'est une femme avant de revenir la soutenir. Il y a vraiment ce truc-là de.
C'est vrai que t'as raison, mais il y a ça.
D'acceptation, de dire, mais en fait, tout ce temps-là, c'était une femme. Donc finalement, on va la réintégrer alors qu'on l'avait chassée 5 minutes avant, on se rendant compte qu'elle avait des seins, quoi.
Oui, c'est vrai.
Comme le message.
Oui. Mais du coup, pour ta question, j'ai tenté d'esquiver, mais...
Non, mais tu as le droit de me dire que tu sais pas et on passe à autre chose.
Figures... Non, mais en vrai, des figures vraiment qui m'ont marqué, je... Bah, après, des figures dans l'entrepreneuriat, oui, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, des figures dans...
Oui, c'est plus dans spécifique la psychologie, à des thématiques.
Enfin, on va dire psychologie, introspection aussi, il y a Jung, je trouve que c'est un mec, mais par contre, son approche, justement, c'est... J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais de ce que j'ai compris, c'est que Freud, c'était très axé sur la sexualité, etc.
Freud, il a des sacrés problèmes.
Et Jung, du coup, je trouve que ça met un vent frais dedans. C'est complètement une vision différente, qui, moi, me correspond beaucoup plus. Voilà. Donc, après...
Du coup, on est quand même plus sur les non-ticites depuis tout à l'heure. Enfin, en tout cas, des personnes qui réfléchissent et qui pensent à la vie en tant que telle. Donc, tu vas plus sur des figures comme ça qui potentiellement peuvent t'inspirer et faire partie de ton paysage culturel. Qu'un James Bond, tu vois, qui véhicule une certaine forme de masculinité.
Oui. Bah, c'est sympa, les James Bond, mais je vais pas m'identifier à ça en particulier.
C'est quoi ton rapport à la masculinité en tant que tel?
Très bonne question, comme on avait vu tout début, c'est déjà même masculinité, j'avoue, j'ai du mal à définir en fait, vraiment.
Tu vas adorer les dernières questions du podcast.
C'est parfait. mais c'est vrai qu'en fait, ouais, clairement, là, sèche un peu, je sais pas.
Et ton rapport à la virilité, dans ce cas? Parce que virilité, pour le coup, alors, encore une fois, j'ai pas vérifié les définitions.
Ouais.
Pour moi, en tout cas, je mets plus. Enfin, masculinité et virilité. Normalement, virilité, c'est plus. C'est censé être l'inverse. Donc, être plus tes attributs anatomiques et la masculinité et la construction sociale. Okay. Mais c'est vrai que dans le langage courant, j'ai l'impression qu'on dit plus « Ah, il est masculin, genre c'est un homme, biologiquement parlant, et ah, il est viril, et on met des dimensions de c'est un bonhomme, donc ça veut dire qu'il a des muscles, ça veut dire qu'il est fort, etc. » Toi, c'est quoi ton rapport à la virilité en tant que telle? Et toutes les injonctions aussi qui vont avec.
Qu'est-ce qui, pour moi, une personne virile, qu'est-ce que ça serait? Par exemple, ça...
Est-ce que tu as eu l'impression, toi, qu'on attendait de toi que tu correspondes à un certain type d'homme? Est-ce que t'as jamais eu d'injonction, même donc à la maison, non, parce que tu disais que t'es la rente hyper ouvert, même à l'école, etc.
Ce qui, d'ailleurs, a sûrement, je pense, à 100% forgé ce que je suis.
Ta construction.
Parce que clairement, oui, non.
Et quand tu vois des hommes autour de toi qui, eux, de toute évidence, tendent à correspondre à un idéal, plutôt représenté quand même massivement par la société.
Ouais.
C'est quoi ta réaction face à ça?
Une fois, je pense que j'ai dû avoir la chair à l'œil avec des gens qui parlaient de je sais plus quel sujet.
Okay.
Et il y a un mec qui était en plus jeune que moi qui m'a dit en gros.
Pourquoi tu
plais? Il était super sympa et tout, mais il m'a dit oui, faut pas recommencer, mon chien et tout. il a pas dit méchamment, mais en fait, je pense que ça l'a mis mal à l'aise. Alors que moi, du coup, il n'y avait aucun problème parce que. M'étais autorisé. Et je me dis justement pour moi, quelqu'un qui est viril, ce serait justement quelqu'un qui saurait exprimer ses émotions ou autre. Enfin, je veux dire, parce que du coup, derrière, faut avoir quand même confiance, un minimum confiance en soi d'un truc pour oser en fait s'ouvrir. Sinon, tu blindes et on revient à ce qu'on disait au tout début, t'es tout le temps dans le contrôle. Par exemple, c'est quand du coup t'entends bien avec quelqu'un et t'as envie de développer quelque chose, c'est vrai que tu vas t'ouvrir petit à petit, tu prends un peu des risques. C'est lié à toute cette notion de risque. Donc peut-être que l'aspect viril, machin, ça va être lié à cette capacité à prendre un risque en fait. Alors que quelquefois on va réassimiler à c'est le super soldat
super
qui va aller en grosse batte et tout au risque de sa vie etc. Ça va forger ce genre de choses.
Mais du coup prendre le risque d'être vulnérable ce serait un risque ultime et il devrait le prendre.
Pour
en fait.
Moi c'est un risque vraiment ultime en fait.
Okay.
Parce que finalement t'ouvres ton.
Alors que c'est vu comme être fragile. C'est ça qui est drôle.
Et ça peut être vu comme fragile. Mais dans certaines philosophies genre je me souviens plus quoi mais j'ai déjà vu dire ça quelque part justement le fait de pas renvoyer le coup à l'autre. Parce que tu te fais taper, en fait, c'est une forme de... Enfin, pour moi, ça, c'est une forme de vérité. Et là, pour le coup, t'as plein de femmes qui font ça. Enfin, donc, du coup, l'image par rapport à ce que tu disais du mec viril, autant plus... Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que t'as décrit plutôt des aspects physiques.
Parce que le gros des injonctions passe par là, je trouve. Ouais. Après, ça, c'est mon point de vue.
Ouais, non, je
trouve qu'on met beaucoup de pression sur le physique. Et après, il y a aussi une dimension quand même mentale. Effectivement, de l'agressivité, entreprendre, cacher ses émotions, être fonceur, ne pas avoir peur. Et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus intéressant.
Montrer qu'on n'a pas de faille, en fait.
Exactement, que t'es un bloc lisse et que du coup, si on se cogne à toi, on va s'écraser et pas, pouvoir rentrer et dire bonjour monsieur, comment allez-vous?
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si tu t'ouvres et du coup tu laisses cette brèche pour permettre à l'autre de rentrer, déjà tu peux créer des trucs très bien.
Mm-hmm.
Et en même temps ça t'apprend aussi, je trouve, à savoir aussi dire non. C'est pas open bar non plus. Donc c'est, alors si t'es déjà en contrôle tout le temps, en fait tu laisses pas les gens rentrer, donc il y a même pas besoin de dire non, en fait tu te protèges.
Ouais.
Donc du coup tu prends pas le risque, donc oui, tu n'auras pas à gérer les conséquences de, en gros, ton ouverture. Par contre, une fois que tu ouvres et que tu sympathises avec je sais pas, une relation de travail, voilà, il se trouve qu'au bout d'un moment, bon, cette personne finalement ne t'intéresse pas trop, ou elle te prend trop d'énergie ou autre chose,
mm-hmm.
Tu as envie un peu de couper les ponts et tu te dis que si,
bah,
si tu sais pas dire non, tu vas te faire bouffer, en fait. Donc du coup, savoir dire non, c'est aussi une forme, je vais dire, de vérité ou d'autre chose, enfin, en tout cas de force.
Mais tu sais dire non et mettre tes limites, toi?
Moi, c'est un truc qu'il faut que je travaille, ça c'est sûr, clairement. C'est beaucoup mieux maintenant qu'avant, mais je pense que là, pour le coup, j'étais en bon contrôle, mais super ouverture en même temps. C'est-à-dire que tout le monde pouvait venir.
Ouais.
Donc c'est bien, pour créer des relations, c'est très efficace. Tu gagnes... Mais en fait, comme t'es ouvert, les autres le sentent. Enfin, comme t'es... C'est pas que t'es ouvert, t'es... comme ils sentent que t'es authentique dans ce que tu dis. Voilà. Enfin, moi, par exemple, au boulot, il n'y a pas de vie pro, vie perso. Enfin, si, il y a vie pro, vie perso, mais je veux dire, je suis la même personne au boulot ou...
Oui, ou en
pas
privé.
Au boulot, voilà. Je pense que ça doit se sentir, parce que je me souviens, c'était une collègue il y a très longtemps, je ne connaissais vraiment pas. Elle vient me voir, elle me parle de, je sais pas, de plein de malheurs dans sa vie.
Okay.
Je me suis dit, j'ai rien demandé. Mais j'ai juste pris le temps de l'écouter, ça a duré genre 10 minutes. Et à la fin, elle me dit, ah, ça m'a fait du bien. En gros, j'ai fait le rôle d'ici, je pense. J'étais ok, ça mm-hmm. me faisait aussi plaisir, et puis je chantais quand j'en avais besoin, pour le coup, j'en avais besoin.
Okay.
Et à la fin, elle m'a dit, ouais, c'est cool, enfin, merci de ton écoute, de ta confiance. Enfin, je lui ai quand même demandé, mais pourquoi t'es venu me voir, en fait? Elle m'a dit, bah, je sais pas, j'avais confiance. Et pendant, j'avais rien fait de particulier. Donc...
Tu t'es dit que tu dégageais ça, quoi.
Mais par contre, je pense que j'avais dû, enfin, on a quand même interagi, enfin, le mot est juste dans le cas du mot, et je pense, du coup, ça a dû aider.
Et j'y pense, tout à l'heure, t'as mentionné ton frère.
Plus maintenant, ouais.
Ton frère, il est comme toi aussi?
Non, on est différents.
Nos ouais.
différences complètent vachement. On essaie de construire une boîte ensemble. Il y a des choses où on va être proche sur le fait de vouloir comment dire, avancer, se donner vraiment. Enfin, un peu l'aspect rêve dont tu parlais, de se dire voilà, on va aller jusqu'au bout, etc. Et là, on se motive complètement. Et en même temps, sur des trucs plus peut-être opérationnels, on va complètement se compléter. On va avoir ouais, des visions différentes, mais qui se regroupent. Lui, il est très sportif, donc il y a cette vision-là. Et du coup, c'est vrai que bah, pour le coup, le sport, moi j'aime bien, mais je l'étais pas, c'est lui qui m'a carrément
Il t'a pas mis en compétition, dedans. Il t'a amené dedans.
Non, pas
en
du
fait.
Tout, bah, il est tellement meilleur que moi, que j'ai même pas de compétition possible
non,
là-dessus.
Non, mais tu sais, c'est vrai, quand t'es sportif, tu peux avoir l'esprit de compète,
ouais.
Et l'appliquer aussi à tes relations personnelles.
Oui, oui, mais par contre, le sport, pour le coup, c'est vrai que c'est un truc vachement intéressant là-dessus. Enfin, tu dis oui, tu peux avoir l'esprit de compète et le mettre dans tes autres relations.
C'est une façon
et,
de faire.
Et à l'inverse, par exemple, dans certains sports, bon, là c'est du tennis en l'occurrence,
mm-hmm.
T'as toute une partie mentale dans le tennis, parce que c'est un jeu aussi, en plus d'être une activité physique, et en plus un aspect complètement jeu et stratégie, et du coup t'as toute une dimension cérébrale. Alors c'est vrai que si on ne connaît pas du tout le tennis, on dit qu'il y a juste des balles qui font pop-pop d'un côté. Dès que tu comprends le truc, tu vois qu'il y a vraiment toute une dynamique dans le jeu. Et du coup, ça t'apprend en fait à gérer aussi tes émotions pendant le match. Ça t'apprend enfin beaucoup de choses sur toi, en fait. Et du coup, quand moi j'en fais en tennis, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que mon prof me disait, ouais, tu rentres pas assez dans la balle, en fait. Assez
agressif.
Punchy, voilà.
Ouais.
Alors, y a pas...
Non, mais agressif, pas dans un sens
pas,
péjoratif,
ouais,
hein, dans le sens t'y vas, quoi.
T'y vas, ouais. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, c'est un peu genre, dis-moi comment tu joues, et je te dirai qui tu es. Et c'est intéressant. Et du coup, le sport permet de révéler ça, je trouve.
Écoute, on arrive aux deux dernières questions du podcast,
ouais.
Donc celle où je t'avais dit tu vas adorer.
Eh ben non, allons-y.
Ça veut dire quoi pour toi, être un homme?
Très bonne question. Ça veut dire quoi, être un homme?
Ouais.
Là, comme ça, le premier truc qui me vient sans filtre, c'est, mm-hmm. C'est le texte de Kipling, de mon père qui m'avait offert ça.
Le poème,
alors,
ça sera un homme, mon fils.
Ouais, je pourrais pas le redire, mais...
On l'a tiré dans les papiers, dans les précédents épisodes, Kipling
ouais.
est passé, ouais.
Alors oui, ça parle de... Mais il y a des notions que je trouve intéressantes mm-hmm. au niveau valeur dedans. Alors je me rappelle plus tout ce qu'il y a dedans, donc je...
Bah,
mais je sais que c'est quelque chose qui en tout cas me parlait.
Ouais. Il incite en fait aussi bien à... pour lui, tu seras un homme, mon fils, c'est... tu seras un homme parce que tu seras à l'écoute pour les autres. Tu seras un homme parce que tu seras quelqu'un de fort. Tu seras un homme parce que tu auras de l'attention. Que tu prêteras attention plutôt.
Oui.
Des valeurs qui sont pas du tout justement... qu'on répète pas assez, je trouve, aux petits garçons, mais aussi aux petites filles, des valeurs juste d'individu. Et donc, tu seras un homme, il est un peu double, c'est tu seras un homme au sens un être humain, et tu seras un homme. Il y a vraiment la double lecture quoi, dans le poème. En tout cas, la traduction française.
Bah, comme ça, si je fais une réponse comme ça, je pense que ça serait ça.
Ouais. Ce serait ça, ok. Et dernière question. Si tu pouvais passer un message, quel qu'il soit, tu vois, ça peut être un conseil, ça peut être ce que tu veux, à tous les hommes à travers le monde, ce serait quoi ?
Ouais.
Là, pour les mecs, t'as le micro et t'y vas.
Ouais. Alors, conseil, je sais pas, parce que je pense que les conseils, ça vaut pour ceux qui les disent. Recommandation, ou en tout cas, ce que moi je ferais, c'est je pense vraiment la notion d'écoute.
Être à l'écoute ?
Ouais. Mais écoute, ça, pour le coup. C'est pas écoute au sens passif, je ne dis rien. Enfin, l'écoute, c'est actif. Enfin, là, par exemple, là, je parle, en fait, t'es en écoute, mais t'acquiesces, tu fais d'autres trucs. Tu renvoies du feedback. Donc, en fait, finalement, tu communiques quand même. Et en fait, c'est pas juste entendre. C'est pas juste, il y a un son qui sort. Et le point, c'est écoute. C'est j'écoute vraiment. Parce qu'en fait, derrière, ça va apporter énormément de choses. Déjà, tu montres de la considération pour l'autre personne. Enfin, tu montres qu'elle existe.
Ouais.
c'est un pouvoir juste énorme, ça. T'apprends à découvrir l'autre, ce qui du coup peut toi-même te faire évoluer ou autre chose. Et je dis aussi écoute, parce qu'une fois il y a quelqu'un qui m'avait dit, avec quelqu'un avec qui je parlais beaucoup et tout, qui un jour m'a dit oui, j'ai l'impression que tu n'écoutes pas. Alors j'avoue, moi ça m'a fait un peu mal quand on m'a dit ça, parce que alors là pour le coup, je me définissais pas du tout comme quelqu'un qui n'écoute pas. C'est même quelque chose qui va me toucher la corde sensible si on me dit ça.
Oui, et puis t'en as parlé déjà tout à l'heure plusieurs fois dans le podcast, le fait que l'écoute était important pour toi.
Bah, je pense que c'est... Puis en plus déjà quand t'écoutes, t'es pas dans une attitude, justement on parlait là de combat de début, tu laisses sa place à l'autre pour s'exprimer. L'idée c'est pas d'être en écoute et de jamais rien dire. Pour régler des conflits, ben, on va dire oui la diplomatie c'est d'abord tu parles avant de faire la guerre et tout, mais oui ça passe par l'écoute. Là actuellement il y a plein de... J'entrerai pas sur les...
Sur le sujet politique,
mais juste qu'importe le sujet actuel, enfin si on arrive dans le genre de situation actuelle, c'est qu'il y a un moment il y a eu un ratage au niveau écoute. Alors qui a la faute Pour moi, il n'y a pas une personne qui dit la faute, mais par contre, je pense qu'il y a un problème d'écoute et de compréhension. Parce que du coup, si t'écoutes, et c'est lié à cette notion d'empathie qui est importante pour moi, c'est que du coup, t'es capable de développer ton empathie et te mettre à la place de l'autre.
Bah, merci beaucoup, Sean.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club, laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, un commentaire, me suivre sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club et surtout, partager le podcast autour de vous. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye!